Bienvenue à l'Investissement décomplexé. Je m'appelle Raymond Kerzéro, je suis directeur de la recherche avec PWL Capital et aujourd'hui, on enregistre notre premier épisode pour l'année 2020 qui va porter justement sur une revue de l'année 2019 et également de la décennie qui vient de se terminer. Je vous présente mes collègues et amis François Doyon-Larochelle, gestionnaire de portefeuille. Bonjour François.
Bonjour Raymond et bonne année.
Bonne année. James Parkin, gestionnaire de portefeuille lui aussi. Bonjour James, comment ça va?
Bonjour Raymond, bonne année à toi aussi, ça va très bien, merci.
Merci beaucoup. Alors, bonjour messieurs. Donc, on a pas mal de pain sur la planche pour aujourd'hui. L'année 2019 a été une très, très bonne année dans les marchés. Bon, nous, on surveille quand même plusieurs classes d'actifs, étant donné qu'on propose une vision placement avec des portefeuilles très, très diversifiés. James, peux-tu partir la balle un petit peu? Comment ça s'est passé? Les actions, les obligations, tout ça? Peux-tu nous parler de ça un petit peu, s'il te plaît?
Oui, écoute, Raymond, en termes des vins, on dirait que c'était une année de grand cru. Alors, je voudrais aussi que nos auditeurs se tiennent en considération qu'on regarde le rétroviseur. Ce n'est pas prévisible. Si on avait la même conversation, c'est-à-dire le même sujet,
ouais,
avec les rendements de marché de 2018, la conversation serait à 180 degrés de ce qu'on va dire aussi. Parce que ouais, 2018 fut une année très difficile.
Ouais.
Pas une année de crise financière, mais une année très difficile, surtout l'automne.
Mm-hmm.
Donc, cette année, si on résume pour commencer avec les obligations, en fait, les taux ont baissé. Et on sait qu'à l'automne 2018, les marchés ont réagi parce que la Banque centrale américaine agissait pour faire en sorte que les taux reviendraient à des pourcentages plus normaux selon le long terme.
Mm-hmm.
Et évidemment, on sait ce qui s'est passé avec la chute des valeurs en fin d'année. Fait qu'il y a un peu de gain en capital. Donc, l'indice des obligations court terme a donné au Canada 3,1 et 6,87 sur l'indice universel.
Donc, 7 % pratiquement de rendement sur l'indice universel, ouais, ça veut dire que ce n'est pas juste l'intérêt courant ou le revenu courant.
Il y a une composante de gain en capital. Et si on revient sur la mathématique des obligations, les obligations court terme, c'est la durée plus courte, c'est très technique. Donc, ouais, si les taux baissent, ils auront moins d'impact, ils auront moins la composante de gain en capital va être beaucoup plus petite. Alors, c'est normal qu'il y ait un écart aussi important. On se rappelle l'année dernière, le court terme avait fait 1,91 et l'universel, donc qui a une duration plus longue, a fait moins, ce qui est assez inusité, a fait 1,41. Fait que cette année, la baisse des taux dans les marchés a fait en sorte qu'on a ce différentiel-là. Mais quand même, c'est un taux très juteux. On s'y attendait pas. Et encore une fois, c'est preuve que tout ça, c'est pas prévisible. Les autres placements revenus, par contre, ont été vraiment les stars de l'année. On parle de les fiducies immobilières et les utilités. Les utilités, en fait, l'indice qu'on suit a fait 37,49. Donc, c'est l'indice S&P/TSX des utilités, le rendement total. Fait que ça, c'est spectaculaire comme rendement. Ce même indice avait fait moins 8,94 l'année précédente. Fait que l'immobilier et les utilités ont donné des rendements extraordinaires.
Puis du côté des actions, je crois que ça a pas mal été dominé par les actions canadiennes puis les actions américaines.
Oui, eux aussi ont été en haut de 20-quelques pourcents. Les actions canadiennes ont fait du 22,88 et les actions américaines, rendement total, mais converti en dollars canadiens, ont fait 24,84. C'est que le dollar canadien, le flux a impacté parce qu'en dollar US, le marché a fait 31,49. Fait que dépendant des couvertures de devises, on aurait fait soit l'un des deux rendements.
D'accord.
Au niveau international, maintenant, on voit que si on se fie sur l'indice EAFE, donc l'Europe, l'Asie et l'Extrême-Orient,
ouais,
en dollar canadien, c'était 16,45. En dollars locaux, c'était 22,31.
Mm-hmm.
Fait que là encore, un très bon rendement, mais significativement, à peu près 8 % de moins que le marché américain, 6 % de moins que le marché
canadien.
Parce
que le dollar canadien a pris de la valeur contre les devises étrangères, l'euro et le dollar américain notamment.
Tout à fait. Donc, c'est assez intéressant parce que par le passé, on était perçu comme, surtout dans la décennie de 2000 à 2009, comme un pétrodollar.
Ouais.
Et là, c'est pas ça qui fait bouger les choses. Donc, les gens ont eu beaucoup d'intérêt pour le Canada cette année. Donc, les choses se sont bien portées au niveau de la devise.
Les marchés émergents, ça a l'air de quoi?
Ça a l'air de 12,89. Puis 12,89, c'est un très bon rendement, mais c'est sûr que c'est de loin inférieur aux autres. Puis on a vu ça surtout en fin d'année, parce que pendant une bonne partie de l'année, ça ne suivait pas du tout. Surtout, il y a des très gros marchés, des gros poids comme la Chine, entre autres, qui traînaient de la patte pendant une bonne année. On peut penser au conflit entre les Américains et la Chine au niveau du commerce international.
Maintenant, ça, c'est la vision sur un an. François, peux-tu nous parler un peu, parce que la fin de 2019, bien, ça sonne la fin de la décennie, hein, 2010 à 2019. Donc, c'est bien beau tout ça, c'est beau les rendements sur un an, mais nous, on s'adresse aux investisseurs à long terme. Donc, pour la décennie 2010 à 2019, de quoi ça a l'air, les classes d'actifs?
Bien, je pense qu'on vient de conclure une très bonne décennie, autant sur les marchés obligataires que sur les marchés des actions, particulièrement aux États-Unis, où l'indice S&P 500 $ canadien a fait près de 16% de rendement. Donc, c'est assez spectaculaire. Sur 10 ans, avoir 16% composé de rendement, c'est excellent.
Ouais.
Maintenant, les actions canadiennes ont un peu moins bien fait, à 7% de rendement. Les actions de l'Europe, Asie et l'Extrême-Orient ont fait 8,3% de rendement. Donc, c'est quand même des bons rendements, mais comparé aux États-Unis, là, c'est le double. Là. C'est 16%, donc c'est assez extraordinaire, là, surtout sur une période de 10 ans. Si on regarde les marchés obligataires, sur le court terme, les obligations court terme au Canada, on a fait 2,4% de rendement, ce qui est quand même assez bas. Puis l'indice univers à 4,3% de rendement.
Encore là, on parle d'un portefeuille d'obligations dont les échéances sont plus longues en moyenne. C'est le marché total. Donc, il y a des échéances s'échelonnant jusqu'à 30 ans.
Jusqu'à 30 ans, de 1 à 30 ans.
Ouais.
Puis l'autre, court terme, là, c'est 1 à 5 ans. Donc, oui, l'obligation univers, ça couvre toutes les échéances. Ça fait un peu mieux, comme dans la dernière année, comme James le disait précédemment. Maintenant, si on regarde, on s'attarde souvent, nous aussi, aux titres de valeur, aux titres de petite capitalisation.
Oui, parle-moi de ça.
Je vais faire un tour. Les titres de valeur aux États-Unis ont sous-performé l'indice en général. Mm-hmm. Donc, c'est les titres de croissance qui ont mieux fait. C'est la même chose du côté des actions européennes, d'Asie et d'Extrême-Orient, où les titres de valeur ont aussi sous-performé les titres de croissance. Mais au Canada, contrairement, là, on a 7,9% de rendement sur les titres de valeur au Canada en dernière décennie versus les titres de croissance à 5%. Donc, c'est le seul endroit, là...
Mais généralement, les titres valeurs ont pas mal de... Les titres croissance ont pas mal dominé le spectacle, là, pour la dernière décennie.
Effectivement. Puis là, si on regarde les titres de petite capitalisation... c'est la même chose. Les titres de petite capitalisation ont sous-performé au Canada, ont sous-performé leur indice, les indices de grande capitalisation aux États-Unis. Et à l'international, par contre, il y a les indices de petite capitalisation ont surperformé les grandes capitalisations.
Okay, donc l'international, c'est l'exception.
C'est l'exception.
Ailleurs, au Canada puis aux États-Unis, les petites capitalisations ont sous-performé les grandes sociétés.
Effectivement. Donc, en général, là, ça fut une très bonne décennie sur les marchés boursiers et obligataires.
Bien, ça nous amène à faire des comparaisons parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Ça a été une très bonne décennie pour les actions en général, mais par contre, généralement, on s'attend que les actions de type valeur doivent surperformer sur le très long terme les actions de croissance.
Oui, effectivement.
Et les petites capitalisations ont généralement des rendements plus élevés que les grandes capitalisations sur des très longues périodes.
Mm-hmm.
Donc, la dernière décennie était un petit peu une anomalie. Maintenant, donc, on se pose la question, comment ça se compare, comment ça se comparerait si on regardait les résultats de la décennie précédente, juste pour avoir un petit peu une idée comparative?
En fait, Raymond, la décennie 2000 à 2009, le portrait et des actions, c'est complètement à l'inverse de 2010-2019.
Okay.
Donc, on se retrouve vraiment avec une preuve, encore une fois, que c'est vraiment pas prévisible, ce genre de choses. Fait que si on regarde les actions canadiennes sur 10 ans, pendant cette période-là, on fait 5,61 et les actions américaines ont fait moins 4,05 en dollars canadiens ou moins 0,95. Il faut comprendre que, il faut se rappeler, pardon, que de 2000 à 2009, on digérait deux guerres, on digérait le 9-11, on digérait le marché, la bulle technologique de la fin des années 90 qui s'est éclatée. Donc, ce marché-là, vraiment, a une décennie très, 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 très difficile. Ouais. Et au fait, les obligations ont beaucoup mieux fait que les actions pendant cette période-là. Mm. Et c'est encore drôle, les actions canadiennes, ils ont fait 5,61, mais l'indice universel des obligations a fait 6,68 pendant cette décennie-là.
Encore une fois, la théorie financière est défiée parce que généralement, quand on investit, on s'attend à avoir des meilleurs rendements sur nos actions que sur nos obligations. Mais dans la décennie 2000 à 2009, ce paradigme-là était inversé. C'est les obligations qui ont performé mieux que les actions.
On voit que les actions internationales maintenant de pays développés, selon l'indice EAFE, eux aussi ont été négatifs légèrement. Moins 1,6 en dollars canadiens, moins 0,65 en dollars locaux. Mais les marchés émergents ont très bien performé. Mm. C'était le meilleur des marchés, 6,65, et qui se compare à 1% à peu près de plus que le marché canadien, 5,61. Ouais. Faut aussi revenir à l'époque, hein, c'était la période où les marchés concentrés en ressources ont très bien fait. Fait que le marché canadien est en synchronisme avec les marchés émergents, c'est assez logique. Compte tenu des poids de ces différents marchés-là en ressources. On peut penser aussi que c'est vraiment la croissance de certains pays émergents était très, très fort. On pense à Corée du Sud et la Chine qui commençait. Elle n'avait pas une grosse influence sur l'indice encore, mais
elle a été quand même intégrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2000 ou 2001, si je me rappelle bien. J'aimerais juste te poser une question. On vient juste de dire que la plus récente décennie, les actions de croissance ont dominé le portrait, ont surperformé les actions de valeur. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose à propos de la décennie précédente?
Non. Au fait, aux États-Unis, les actions de croissance ont de loin sous-performé les actions de valeur.
De 2000 à 2009.
Et encore une fois, on peut croire que le gros de l'influence, c'est le dégonflement de la bulle technologique.
Ouais.
Donc, si on regardait les statistiques de marché pour la décennie qui précédait ça, jusqu'à de 1990 à 1999, on verrait que les croissances auraient de loin surperformé. Fait qu'encore une fois, c'est un réajustement dans les marchés.
Un réalignement, hein? Puis les actions de petite capitalisation, comment ça s'est passé?
En fait, ils ont donné un rendement positif. 3,51 en dollars américains puis 4,89 en dollars canadiens pour les actions de petite capitalisation en américaine. Au Canada, les petites capitalisations, ils ont mieux fait que le marché. Les actions de valeur ont mieux fait que les actions de croissance. Puis à l'international, les actions de croissance ont moins bien fait que les actions de valeur. Fait que là, on voit que l'effet valeur dans les marchés, la prime de risque a très bien fonctionné, l'effet petite capitalisation a très bien fonctionné pendant cette décennie-là.
Donc, à la fin de la décennie 2009, si on avait juste regardé les performances passées, on serait dit, on laisse tomber les actions américaines, c'est pas bon. On laisse tomber surtout les actions américaines de grande capitalisation. On laisse tomber les actions de croissance. Puis on met le paquet sur les obligations aussi parce que les obligations ont battu tout le reste. Donc, se fier sur les rendements passés, ça risque de nous mener dans la mauvaise direction, comme tu disais.
Comme je dis à mes clients, c'est comme regarder ses pieds pour conduire son char. Ouais. Ça ne peut pas mener un bon résultat dans ses placements.
Ouais.
C'est tout simplement pas prévisible, toutes ces choses-là.
Fait
qu'on a une situation ou une décennie qui suit l'autre, ça ne se ressemble pas à toute fin pratique.
OK. François, j'aimerais qu'on regarde la dernière année 2019 sous un angle un peu différent. Peux-tu nous parler un peu des pays qui ont le mieux performé, de ceux qui ont le moins bien performé, s'il te plaît?
Oui, certainement. Mais on s'attarde souvent à regarder le marché américain, le marché canadien étant des Nord-Américains, mais on ne regarde pas souvent ce qui se passe ailleurs. Puis ça, pour nous, chez PWS, une partie intégrante des portefeuilles.
Ouais.
On ne va pas dans le menu détail comme ça à chaque fois, mais je pense que juste regarder, j'ai un intérêt, en tout cas, moi, j'ai un intérêt à regarder là, chaque pays, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur ensemble. Un pays qui me surprend pour la dernière année, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et même nous-mêmes qui seraient attendus à ça, mais la Grèce avec une performance extraordinaire de 48% l'an dernier, 48,3% pour être plus précis. Donc, c'est assez extraordinaire, suivi de près par la Russie à près de 45%, à 44,7%.
Okay.
Donc, une autre très bonne performance ici en termes de pays. Puis les pays qui ont moins bien fonctionné, ben on a le Chili à moins 20,6. Puis on a aussi la Malaisie à moins 4,3.
Donc, on voit beaucoup les pays émergents dans les extrêmes. Hein? Autant les meilleurs que les pires, on voit beaucoup les pays émergents là-dedans.
En effet. Puis il y a la Pologne aussi à près de moins 9%. Donc, il y a l'ensemble des pays que j'ai ici, là, il y en a une trentaine qu'on a regardé certainement. Il y a trois pays où il y a des rendements négatifs pour la dernière année. Puis le reste, c'est des rendements positifs allant de 0,01 à 48,26%.
C'est quand même une année exceptionnelle. On n'aura pas des années en bourse comme 2019 régulièrement. Là.
Pourtant, on commençait l'année là, de façon assez difficile après le quatrième trimestre de 2018,
avec des
baisses assez soutenues sur le S&P 500, TSX et même les indices européens et d'Asie. C'est beaucoup d'incertitudes, les tensions commerciales US et la majorité de ses partenaires commerciaux, la Chine, on peut penser au Canada.
Ouais.
On a encore parlé du Brexit, puis le ralentissement économique mondial.
Mm-hmm.
C'est des très bons rendements là, globalement.
C'est une grosse année.
Grosse année, effectivement.
Je reviens toujours vers le long terme. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années du côté des pays.
C'est intéressant. Oui, je vous ai parlé de la Grèce, rendement spectaculaire, mais ils sont les champions de l'autre côté aussi. Sur les dernières 10 années, la Grèce a eu un rendement composé de moins 16%.
Oh là là!
Donc,
Malgré l'année exceptionnelle.
Malgré l'année exceptionnelle.
En 2019, ça n'a pas
effectivement,
sauvé leur décennie.
Moins 16%, c'est colossal. Là.
Ouais.
Un autre pays là, qui a des rendements négatifs sur les derniers 10 ans, là, c'est, si je ne m'abuse, c'est la Turquie. Donc, à près de moins 2% sur 10 ans.
Mm-hmm.
Les champions, la Nouvelle-Zélande à 16,16%. On a parlé des États-Unis plus tôt à 16% de rendement.
Au deuxième rang.
Au deuxième rang.
Mais la Nouvelle-Zélande, je l'avais prédit, ça.
Tu l'avais
ça
prédit,
serait le meilleur. Ouais. J'ai tout misé sur la Nouvelle-Zélande. C'est une blague.
Puis le troisième en ligne, là, c'est le Danemark. À près de 15% de
ça
rendement
aussi, je l'avais prédit.
Sur les dernières 10 années. Puis il y a un pays, par contre, qui me surprend. Je ne sais pas si on se souvient des PIGS, les Portugal, l'Italie, la Grèce, qui étaient en difficulté financière. Là.
Ouais.
Puis je vois l'Irlande là, dans le haut de la liste là, en termes de rendement sur les derniers 10 ans. À 11,1% de rendement.
Donc, un de ces fameux pays là, qui était en grave difficulté en 2011, son marché boursier semblerait indiquer qu'ils ont redressé la barre.
Semblerait. Par contre, j'ai regardé les autres. Là, il y a la Grèce qu'on a mentionnée qui ne va pas très bien. Il y a l'Italie qui est le rendement 10 ans est près de 4%. C'est pas très fort non plus. Portugal non plus, on est près de 0%. Et l'Espagne à près de 2% de rendement. Donc, c'est mitigé là, en termes. Il y a seulement que l'Irlande qui se démarque. Là.
Ce qui me fascine dans cette liste-là, François, c'est que La Chine est au milieu avec 7,5 de rendement sur, 10 ans. On aurait pensé, avec son évolution au niveau économique, que son marché aurait pas mal mieux performé. Mais encore une fois, il se trouve au beau milieu là, du groupe.
Effectivement.
Au niveau des secteurs, qu'est-ce que ça a l'air pour la dernière année, James? Toi, t'es pas mal notre expert des secteurs puis des compagnies.
Ben, en fait, quand on regarde ça, toujours fascinant, les deux secteurs que je trouve les plus volatiles, c'est celui de la technologie et de l'énergie. Et comme on sait, les marchés canadiens, les marchés émergents ont moins bien fait la dernière décennie parce qu'ils ont des poids importants dans les ressources. Mais on voit que le pire secteur depuis un an, c'est l'énergie. Il y a seulement 8,4 de rendement. Si on regarde sur la décennie, elle a 6,4.
On parle des secteurs mondiaux. Hein? On parle des indices, des sous-indices par secteur pour le,
oui,
le marché
pour
mondial.
Pour revenir à la base, c'est que la grande société américaine Morgan Stanley, elle a développé des indices et on classifie les économies pour comparer les marchés dans 10 secteurs. Donc, la technologie, la consommation discrétionnaire, les industriels, les services de communication, les financiers, l'immobilier, le soin de santé, les utilités, puis les matériaux et l'énergie. Fait que quand on les décortique, on peut savoir lesquels des secteurs on peut mieux faire. Fait qu'en 2019, la technologie a fait 40,06. Puis le deuxième prochain, qui est les biens de consommation discrétionnaire, ça a fait 21,72. Fait qu'on voit qu'il y a tout un groupe, il y a 8 secteurs qui se rapprochent. Les matériaux ont fait 14,62.
Donc, quand tu parles de compagnies de technologie puis de compagnies de consommation discrétionnaire, as-tu des exemples de noms de compagnies que les gens puissent saisir un peu? Je sais que la technologie, tu vas probablement nous dire certains noms qu'on connaît bien.
Ça va inclure les Microsoft, les Apple et ce genre de compagnies-là, des marques de commerce très bien connues. Pour ce qui est des biens de consommation discrétionnaire, c'est Starbucks, le café, Amazon, Home Depot, Toyota.
Ça veut dire quoi, ça, discrétionnaire? Parce que dans les secteurs, tu as les secteurs non cycliques, puis tu as les secteurs de consommation discrétionnaire. Donc, discrétionnaire, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on a choix ou non d'acheter une auto.
Gros latté là, de chez Starbucks.
T'as le choix ou pas. Fait qu'il y a un autre secteur qui s'appelle les biens de consommateur, biens de consommation. En anglais, on dit « consumer staples ». Donc, c'est des biens qu'on doit absolument consommer, la nourriture, ce genre de choses-là. Okay. Mais les biens de discrétionnaire, c'est qu'on se donne le luxe de les acheter.
OK. Donc, au lieu de prendre un café chez Starbucks, on peut aller se prendre un café dans un endroit moins cher.
Chez McDo, chez Tim Hortons.
Mais j'ai remarqué, j'ai regardé la liste, puis McDonald's aussi fait partie des biens de consommation discrétionnaire.
Tu peux te faire un bon Nescafé à la maison avec le café instantané, c'est ça, ton alternative.
Ouais.
Alors, ça répond bien à ta question, Raymond.
Oui, tout à fait.
Fait que c'est encore étonnant que l'année dernière, le meilleur a de loin surperformé à 40,06, les technologies, et le pire, c'est l'énergie à 8,04, toujours pour un rendement négatif. Pour les rendements sur 10 ans, quand on regarde la décennie qui vient de passer, les résultats, c'est encore une fois complètement à l'inverse de la décennie précédente de 2000 à 2009. Donc, pour la décennie qui vient de se terminer, les grands gagnants, c'était les technologies de l'information, 17,99 à l'échelle mondiale. Puis les pires, c'était l'énergie à 4,11. Fait qu'un énorme différence.
Donc, les mêmes résultats, le même genre de résultats que pour l'année 2019, là, pour la décennie, là, ça a été comme une confirmation de la domination des actions de technologie.
Oui, sauf que les actions de technologie, ils ont surperformé les biens de consommation discrétionnaire de seulement 2,5 %. Donc, eux, ils ont fait 15,35.
OK.
Fait que c'est pas autant... C'est vraiment la grosse surperformance, c'était en 2000, le rendement annuel des technologies. Ouais. Pour ce qui est de la décennie précédente, les technologies d'information ont fait moins 10,22
C'était le pire secteur, hein,
de loin,
dans les décennies précédentes. L'énergie était le meilleur.
L'énergie était le meilleur à 6,43.
Donc, encore une fois, il y a eu plusieurs inversions entre la décennie qui vient de se terminer puis l'autre décennie, la décennie 2000 à 2009. Tout à l'heure, on parlait des actions valeurs puis des actions de petite capitalisation qui ont très mal performé relativement dans la décennie courante, qui ont très bien performé à la décennie précédente. L'histoire se répète avec les secteurs.
Oui. Tout à fait.
C'est la même chose avec les pays. On a vu que les États-Unis ont surperformé dans la dernière décennie. La décennie précédente, les États-Unis avaient sous-performé massivement là, versus les autres marchés boursiers internationaux. Donc oui, il y a une similitude là, entre le secteur et les différents marchés boursiers.
On a sorti aussi des chiffres. Moi, je suis un petit peu obsédé avec le long terme là, parce que je crois que c'est vraiment la situation dans laquelle la plupart des investisseurs, ou c'est vraiment la vision que la plupart des investisseurs devraient prendre, c'est de se dire je vais être investi non seulement pour plusieurs années, mais vraiment à travers plusieurs cycles boursiers. Donc, on a sorti des chiffres un peu pour le marché mondial des actions. Comment le marché a performé sur plusieurs décennies. On est allé très loin, on est allé chercher 12 décennies. Donc, on a les 12 décennies à partir de l'an 1900. Et puis, il y a quand même certaines statistiques. Moi, j'aurais aimé ça savoir comment la décennie qui vient de se terminer se compare par rapport à ce grand historique-là là, de 120 ans. François, peux-tu nous informer un petit peu?
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu nous as sorti, Raymond. Là. 120 ans de données... C'est quelque chose, puis on s'aperçoit, je vais en revenir aux chiffres, là, mais on s'aperçoit que c'est pas... tu sais, on parle des rendements des marchés boursiers, là, on devrait avoir 7 % de rendement. Ben, quand je regarde ces données-là, c'est loin d'être un 7 % linéaire. Là.
Ouais.
C'est, on s'en va un peu partout, puis là, je parle, là, je réponds à ta question plus spécifiquement. La dernière année sur les marchés internationaux... actions mondiales. Là,
tu veux dire la dernière décennie?
Pour la dernière décennie,
ouais.
7,6 % de rendement.
Ça, c'est réel. Hein? C'est,
oui,
réel.
L'inflation
est soustraite là-dedans.
Exactement.
C'est le marché mondial en dollars américains. Je veux juste
oui, vas-y, donne le détail.
Marché mondial en dollars américains net de l'inflation.
Tout à fait. Tout à fait. Ça se compare à une moyenne sur les 12 décennies ou les dernières 120 ans.
Oui.
De 5,8 %.
OK. Donc c'est une bonne décennie.
C'est
pas
une
exceptionnel.
Bonne décennie. C'est pas exceptionnel. On a eu trois autres décennies qui ont surpassé le 10 % dans les 12 décennies que tu as ici. Donc, 1920 à 29, 13 % de rendement.
Donc, l'année qui s'est conclue sur le grand crack boursier.
Exactement. 1950-59, 17 %, ça, c'est notre champion.
OK.
La décennie 80-89 avec 13,5 % de rendement.
OK.
Donc, ça, c'est les trois meilleures décennies. Dans ces statistiques-là, il y en a deux. Il y a deux décennies où on a eu des rendements négatifs.
Ah, on a perdu de l'argent sur 10 ans bon, en étant investi à travers le marché mondial.
Ah, tout à fait. Un en 1910 à 1919. Près de moins 4 % de rendement. Ben là, c'est la première guerre, c'est la grippe espagnole.
Ouais.
Puis la dernière décennie qui se rapproche de nous, puis c'est la décennie de la crise financière. Je pense qu'avec notre survol tantôt, on a peu conclu
ouais.
avec les États-Unis non. à moins 4,6 %.
Oui, mais chose. En fait, deux marchés baissiers, deux marchés baissiers dans la même décennie, c'est exceptionnel.
Ouais.
Donc, on a eu un marché baissier de 2000 à 2002, puis un deuxième marché baissier beaucoup plus court, mais quand même qui a fait beaucoup de dommages en 2008 et lors des premiers mois de 2009.
Exact. Fait que là, cette décennie-là, 2000 à 2009, moins 1,6 %.
OK. Puis, donc, bref, finalement, là, on dit la moyenne, c'est 5,8 %, mais que le rendement soit en fait près de 5,8 % lors d'une décennie, c'est très rare.
Écoute, il n'y en a qu'une. Là. Si je regarde ça, il y en a une à 5,5 % de 60 à 69. C'est la seule qui arrive près de la moyenne à long terme. Là. Donc, c'est comme je disais au départ, c'est loin d'être linéaire, cette affaire-là. Puis, il faut que nos auditeurs, nos clients comprennent que d'une année à l'autre, il va y avoir de la variabilité. Mm. Et d'une décennie à l'autre, il y a beaucoup de variabilité.
Mm. Bon, ben, on a fait le tour de pas mal de chiffres. On a revu les rendements de la dernière année, de la dernière décennie, puis comment elle se compare à la décennie précédente. On a couvert les secteurs, on a couvert les actions de valeur, les actions de petite capitalisation. On a regardé les pays. C'est bien beau tout ça, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais ça vous demander qu'est-ce que vous retenez de tout ça, là. Un fait saillant pour toi, James, une conclusion là, en termes de ce qu'on devrait retirer de tout ça pour guider notre bonne façon de gérer un portefeuille?
En fait, il faut revenir à la bonne vieille discipline de base, qui est d'avoir un portefeuille très bien diversifié, de respecter le fait que ces rendements-là ne sont pas prévisibles, qu'on ne peut pas se fier sur les rendements précédents.
Ça, c'est difficile d'accepter ça.
C'est très difficile parce qu'on est conditionné à vouloir se protéger, à s'attendre à ce que les experts financiers nous prédisent l'avenir, et c'est tout simplement trop dangereux pour la gestion de ses finances personnelles. Donc, il faut vraiment bien comprendre son portefeuille, la diversification, la structure, comment il est monté, et bien connaître et respecter sa tolérance au risque, et avec son conseiller, bien structurer la diversification du portefeuille pour faire en sorte qu'on va se donner un bon rendement à long terme.
François?
J'abonde dans le même sens. Les marchés sont pas prévisibles, donc il faut rester discipliné. Adopter une allocation d'actifs à long terme qui convient à notre tolérance au risque puis à nos objectifs, puis avoir une diversification. Diversification, ça veut dire une diversification par pays, par secteur, par style d'action, les actions de valeur, des actions de croissance. Les capitalisations, pas juste miser sur les grandes capitalisations, mais aussi penser aux moyennes et aux petites capitalisations et rebalancer son portefeuille.
Régulièrement. Oui. Peut-être un petit peu, peux-tu nous faire un petit commentaire sur aussi la performance des actions à travers les décennies, à quel point on peut s'attendre à ce qu'avoir tout le temps des rendements positifs sur 5 ans ou sur 10 ans, est-ce que c'est raisonnable, ça, comme attente?
Est-ce que c'est raisonnable? Les statistiques nous disent que, normalement, cette année sur 10, on devrait avoir des rendements positifs dans les marchés boursiers. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait 30 % 3 sur 10, qui soit à la baisse. De quelle magnitude? C'est impossible pour moi de te dire ça, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des décennies où est-ce qu'on va avoir des rendements négatifs.
Ou médiocres. 1 ou 2 % à net de l'inflation.
Oui, tout à fait.
Ça va arriver.
Tout à fait. Parce que quand on fait le survol des 120 dernières années, il y a quand même 3 années sur 12 là, où est-ce qu'il y a des rendements de 0 à 2 %. Donc, en plus de celles qui étaient négatives, là, ça fait 5 années sur 12 là, où est-ce qu'on a des rendements négatifs ou moins de 2 % sur les actions.
Donc, moi, je retiens deux mots pour la fin. James l'a déjà dit, discipline. Donc, il faut s'en tenir à avoir une stratégie qui est bien réfléchie puis à être discipliné. Puis, c'est un peu une composante de discipline, la persévérance. Parce que pour l'investisseur qui veut se bâtir un capital à long terme, admettons, pour préparer la retraite, ça va prendre beaucoup de persévérance parce que les rendements ne seront pas aussi bons qu'espérés à tous les moments. Puis même des fois, il va y avoir des périodes assez longues où les rendements ne seront pas très bons. Heureusement, la diversification est là pour donner un coup de main, pour contrecarrer ça en partie. Mais il n'empêche que ça prend énormément de persévérance.
Tout à fait.
OK, bien merci beaucoup, messieurs.
Ça m'a fait grand plaisir, Raymond.
Merci, Raymond.